Indiana de George Sand. Première partie. Chapitre 1. Par une soirée d'automne pluvieuse et fraîche, trois personnes rêveuses étaient gravement occupées, au fond d'un petit castel de l'abri, à regarder brûler les tisons du foyer et cheminer lentement l'aiguille de la pendule. Deux de ces hôtes silencieux semblaient s'abandonner en toute soumission au vague ennui qui pesait sur eux. Mais le troisième donnait des marques de rébellion ouverte. Il s'agitait sur son siège, étouffait à demi-haut quelques bâillements mélancoliques, et frappait la pincette sur les bûches pétillantes avec l'intention marquée de lutter contre l'ennemi commun. Ce personnage, beaucoup plus âgé que les deux autres, était le maître de la maison, le colonel Delmar, vieille bravoure en demi-solde, homme jadis beau, maintenant épais au front chauve, à la moustache grise, à l'œil terrible. Excellent maître devant qui tout tremblait, femmes, serviteurs, chevaux et chiens. Il quitta enfin sa chaise, évidemment impatienté de ne savoir comment rompre le silence, et se prit à marcher pesamment dans toute la longueur du salon, sans perdre un instant la roideur convenable à tous les mouvements d'un ancien militaire, s'appuyant sur les reins et se tournant tout d'une pièce, avec ce contentement perpétuel de soi-même qui caractérise l'homme de parade et l'officier modèle. Mais ils étaient passés les jours d'éclat où le lieutenant Delmar respirait le triomphe avec l'air des camps. L'officier supérieur en retraite, oublié maintenant de la patrie ingrate, se voyait condamné à subir toutes les conséquences du mariage. Il était l'époux d'une jeune et jolie femme, le propriétaire d'un commode manoir avec ses dépendances, et de plus un industriel heureux dans ses spéculations. En conséquence de quoi le colonel avait de l'humeur, et ce soir-là surtout, car le temps était humide, et le colonel avait des rhumatismes. Il arpentait avec gravité son vieux salon meublé dans le goût de Louis XV, s'arrêtant parfois devant une porte surmontée d'amour nu, peint à fresque, qui enchaînait de fleurs des biches fort bien élevées et des sangliers de bonne volonté, parfois devant un panneau surchargé de sculptures maigres et tourmentées, dont l'œil se fût vainement fatigué à suivre les caprices tortueux et les enlacements sans fin. Mais ces vagues et passagères distractions n'empêchaient pas que le colonel, à chaque tour de sa promenade, ne jetât un regard lucide et profond sur les deux compagnons de sa veillée silencieuse, reportant de l'un à l'autre cet œil attentif qui couvait depuis 3 ans son trésor fragile et précieux, sa femme. Car sa femme avait 19 ans. Et si vous l'eussiez vu enfoncer sous le manteau de cette vaste cheminée de marbre blanc incrustée de cuivre doré, si vous l'eussiez vu, toute fluette, toute pâle, toute triste, le coude appuyé sur son genou, elle, toute jeune, au milieu de ce vieux ménage, à côté de ce vieux mari, semblable à une fleur née d'hier, qu'on fait éclore dans un vase gothique, vous eussiez plaint la femme du colonel Delmar, et peut-être le colonel plus encore que sa femme. Le troisième occupant de cette maison isolée était assis sous le même enfoncement de la cheminée à l'autre extrémité de la bûche incandescente. C'était un homme dans toute la force et dans toute la fleur de la jeunesse, et dont les joues brillantes, la riche chevelure d'un blond vif, les favoris bien fournis, juraient avec les cheveux grisonnants, le teint flétri, et la rude physionomie du patron. Mais le moins artiste des hommes eût encore préféré l'expression rude et austère de Delmar aux traits régulièrement fades du jeune homme. La figure bouffie, gravée en relief sur la plaque de tôle qui occupait le fond de la cheminée, était peut-être moins monotone avec son regard incessamment fixé sur les tisons ardents, que ne l'était dans la même contemplation le personnage vermeil et blond de cette histoire. Du reste, la vigueur assez dégagée de ses formes, la netteté de ses sourcils bruns, la blancheur polie de son front, le calme de ses yeux limpides, La beauté de ses mains et jusqu'à la rigoureuse élégance de son costume de chasse l'eussent fait passer pour un fort beau cavalier aux yeux de toute femme qui eût porté en amour les goûts dits philosophiques d'un autre siècle. Mais peut-être la jeune et timide femme de M. Delmar n'avait-elle jamais encore examiné un homme avec les yeux. Peut-être y avait-il, entre cette femme frêle et souffreteuse et cet homme dormeur et bien mangeant, absence de toute sympathie. Il est certain que l'argus conjugal fatigua son œil de vautour sans surprendre un regard, un souffle, une palpitation entre ces deux êtres si dissemblables.